Bonjour, donc il y a eu une conférence de presse lundi dernier pour présenter le rapport de l'Observatoire des Girondins des Libertés Publiques. Bon, déjà, d'où vient cet observatoire et quelles sont ses missions?
Ouais. Alors bonjour, effectivement l'Observatoire Girondin des Libertés Publiques existe depuis à peu près un an et demi, deux ans. Il a été créé suite à l'existence du collectif
contre l'état d'urgence.
C'est ça, voilà, le collectif contre l'état d'urgence. Alors moi j'y étais pas, c'est pour ça que je m'en souviens pas forcément. Donc le collectif contre l'état d'urgence s'est transformé en Observatoire Girondin des Libertés Publiques. C'est des observatoires qui existent aussi dans d'autres villes comme Toulouse, Montpellier, Paris. Les objectifs, c'est vraiment d'observer comment est-ce que le maintien de l'ordre est assuré au niveau en France. Alors que ce soit au niveau des expulsions de squats, que ce soit pendant les manifestations, pour l'instant, ce sont les deux événements que l'on suit à l'Observatoire Girondin des Libertés Publiques. Mais on pourrait être amené à suivre d'autres, comme la liberté d'expression, la liberté de la presse. Ça peut être aussi pris en charge par l'Observatoire qui traite toutes les libertés publiques. Donc les objectifs, c'est de voir si l'État, à travers la préfecture et à travers sa police, ses polices, parce qu'il y en a plusieurs, respectent du coup les lois. Voilà, c'est le premier constat. Même si les lois, on voit qu'année après année, avec l'excuse du terrorisme, se durcissent de plus en plus sur les libertés publiques, avec l'excuse de la sécurité de tous. Or, effectivement, plus on a de sécurité, moins on a de liberté publique. Plus on a de liberté publique, moins, on va dire, la sécurité d'un point de vue policier doit être faible. Ce qui ne remet pas en cause, on va dire, le fait d'avoir une société plutôt apaisée avec des relations entre les personnes, que ce soit physique ou de discussion, sans violence. Voilà.
Et donc, cet observatoire, il a essentiellement mené un travail d'observation. Comment il a mené ses actions? Comment ça se passait?
Alors, cet observatoire a commencé à envoyer sur le terrain, principalement, on va parler des moi je me suis occupé beaucoup plus des manifestations depuis les Gilets jaunes, donc on va surtout parler de ça. Donc on envoie des observateurs et des observatrices sur le terrain, qui peuvent participer à la manifestation ou être accompagnés à la manifestation, un peu comme les journalistes, hein, et observer les actions des polices qui reçoivent les ordres de la préfecture. La préfecture reçoit les ordres du ministère de l'Intérieur. Et donc, on regarde comment la réaction de la police, si elle est proportionnée aux événements qui sont sur place. Il y a tout un tas de lois qui déterminent comment la police doit réagir face aux manifestants pacifistes, face à des manifestants que l'on pourrait qualifier de un peu plus violents. Et tout ça est déterminé par les lois, et la police n'a pas à faire n'importe quoi, elle n'est pas au-dessus des lois, elle doit avoir un usage, enfin voilà, une réaction proportionnée aux événements qu'elle a en face d'elle. Donc ces observateurs et ces observatrices font des rapports qu'ensuite on compile. Nous avons aussi travaillé avec le collectif anti-répression. C'est un collectif de gilets jaunes qui ont été blessés par eux ils qualifient ça de violence policière. Donc ils ont monté un collectif pour se soutenir entre eux et récolter des témoignages. Et on travaille aussi avec le CLAP 33, qui est le collectif contre les abus policiers, qui récolte aussi des témoignages. Et l'Observatoire a fait une synthèse, en fait, de tous ces témoignages et de ce qu'on a pu voir sur le terrain et en fonction, et aussi des discours qu'ont tenu le préfet, donc Didier Lallement, qui aujourd'hui a été promu à Paris. Donc on peut se demander si les actions de Didier Lallement à Bordeaux ont été récompensées pour pouvoir arriver à Paris. Mais du coup, on va parler de ces actions en suivant.
Et vous avez interviewé le préfet?
Alors le préfet, on ne l'a pas interviewé parce qu'on ne lui a pas demandé de rendez-vous. Par contre, on lui a écrit une lettre en privé qui est restée sans réponse. On lui a fait une lettre publique qui est restée sans réponse. Et l'Observatoire a fait quelques communiqués lorsque la police avait des attitudes et manifestement a eu des actions qui étaient complètement disproportionnées. Et du coup, là, on peut parler de violence policière. Tous ces communiqués sont restés sans réponse, sans réaction de la part de la préfecture et du préfet Lallement.
Qu'est-ce qu'il y a d'important que vous relevez dans le rapport?
Ce qu'on a vu, et depuis le début effectivement des manifestations des Gilets jaunes, c'est que la politique de maintien de l'ordre mise en place par la préfecture ressemblait beaucoup plus à une politique de tension. Alors qu'on affiche les policiers en armure, casqués, avec les boucliers, on met en place des grilles anti-émeutes qui font presque, je sais pas, entre 2 et 3 mètres de haut, qui bloquent des passages complètement. Enfin, les rues sont impraticables, du coup, on ne peut vraiment pas passer. C'est des véritables barrières. Des canons à eau. On a vu deux fois des véhicules blindés de la gendarmerie mobile. Ils étaient deux à Bordeaux. Il y en a eu aussi à Paris, à Bordeaux. Et le préfet avait bien précisé que cette politique, c'était pour... tolérance zéro vis-à-vis des manifestants et des manifestantes, mais aussi pour faire peur et démotiver les manifestants et les manifestantes pour qu'ils ne viennent plus manifester.
Ce sont des termes qui ont été revendiqués.
En tout cas, oui, cette politique a été complètement assumée par la préfecture. Or, on sait depuis des années que plus on met en avant la police auprès des manifestants, plus la tension augmente de la part des manifestants et des manifestantes qui se retrouvent opposés à une police qui est assez impressionnante et du coup qui crée des tensions. Et il suffit que, par exemple, un œuf part et la police va répliquer en face. Alors effectivement, les policiers sont en stress aussi parce que la tension, elle est des deux côtés. Donc il suffit ensuite de peu de choses pour que la répression policière s'abatte complètement sur les manifestants, avec des tirs de lacrymogènes, avec des tirs de LBD-40, avec ces fameuses grenades Gli F4, qui sont des grenades en même temps lacrymogènes, mais en même temps explosives, qui ont fait d'énormes dégâts, on va en parler juste après. Et donc cette politique un peu de terreur de la part du préfet a été complètement assumée, et il voulait démotiver les manifestants et les manifestantes, encore une fois.
Parce que cette politique, un petit peu, elle a déjà existé sur d'autres mobilisations. Donc là, il y a quand même un changement d'échelle, au moins, avec le fait qu'il y ait des mutilés. Je veux dire, il y a eu des morts, mais qui ont été avec la répression à Sivens, par exemple. Mais il y a longtemps, qu'il n'y a pas eu à cette échelle-là. Donc il y a quand même une escalade pour vous, vous avez noté là-dessus.
L'armement des LBD-40 est assez récent, en fait, c'est une dizaine d'années, si je me souviens bien. En fait, il y avait les flashballs, et ensuite, les flashballs ont été critiqués par leur manque de précision. Donc, l'État a acheté des LBD-40, qui sont censés être plus précis, et plus puissants aussi. Et le problème de ces LBD-40, ils sont pas si précis que ça, donc, difficulté de... pour les policiers de réussir à toucher le membre qu'ils avaient visé au départ. On se retrouve du coup avec énormément de personnes touchées à la tête, alors que c'est totalement interdit. On a reçu à peu près une vingtaine de témoignages sur des tirs de LBD-40, donc des blessés par tir de LBD-40. 11 personnes ont été touchées à la tête. Donc c'est quand même une proportion qui est énorme. Donc on parle effectivement de mauvaise utilisation des armes qui sont fournies à la police, quand même très grave, parce que ce sont pas des, ces armes sont appelées armes à létalité réduite, ce sont pas des, des armes non plus complètement inoffensives. D'ailleurs, au niveau des blessures que l'on a répertoriées, c'est deux éborgnés, deux mains explosées, donc ils sont des mains arrachées par les grenades Kiev 4 justement. Des comas, une mâchoire arrachée, et lorsque les, ça c'est les tirs à la tête, et lorsque les BDT 40 touchent par exemple des tibias ou des côtes, c'est côtes cassées, tibias cassées, il peut y avoir aussi des nécroses au niveau des muscles, donc ce sont des blessures qui sont quand même très graves. Les urgences, certains médecins des urgences vont les qualifier de blessures de guerre. C'est des blessures qui n'ont jamais été vues en manifestation jusqu'à présent.
Et qui sont durables, ça veut dire que les personnes ne récupéreront pas.
Certaines blessures vont mettre plusieurs mois à guérir. Et effectivement, de toute façon, les personnes qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, ne pourront jamais les retrouver, donc c'est à vie. Ce sont des blessures extrêmement graves, surtout lorsque l'on sait que, sur tous les témoignages que l'on a reçus, une quarantaine, il n'y a aucun... aucune des personnes était en position de violence ou mettait en danger les forces de l'ordre. La LBD 40 ou la Kiev 4, qui est une grenade de désencerclement, ne doivent être utilisées par les forces de police qu'en cas de légitime défense pour se protéger eux-mêmes. On a vu, et on peut le voir sur des vidéos, certaines polices utilisaient le LBD 40 de façon offensive. C'est ce qui s'est passé par exemple avec le Olivier, le pompier, qui est parti, qui a pris un tir de LBD 40 à l'arrière de la tête, semble-t-il par des policiers en civil, d'après ce qu'on voit sur les images, qui a fait quelques jours de coma une fois à l'hôpital. C'est un tir offensif. Il a été touché à l'arrière de la tête. C'est l'illustration de la mauvaise utilisation des armes par la police sur les manifestations des Gilets jaunes. On peut aussi retrouver ça au niveau des gaz lacrymogènes. Il y a de plus en plus de témoignages de personnes qui vont avoir des démangeaisons, qui vont avoir des vomissements, qui vont garder des séquelles plusieurs jours, plusieurs mois après être passé dans les nuages de gaz lacrymogène, enfin être passé, d'avoir subi des nuages de gaz lacrymogène. Il y a eu des rumeurs comme quoi les gaz n'étaient pas les mêmes. D'après nos informations, les gaz sont les mêmes. Par contre, c'est la concentration dans l'air qui est très importante. Les policiers ont tiré à certains moments beaucoup plus de grenades lacrymogènes qu'il n'aurait dû le faire, ce qui augmente la concentration dans l'air et qui va créer des séquelles à long terme à cause des gaz lacrymogènes. Il faut savoir que ces gaz lacrymogènes, qu'on appelle gaz CS, ce sont des gaz qui sont interdits en temps de guerre par la Convention de Genève. Donc ce sont des armes de guerre. Les LBD 40, c'est pareil. La LBD 40 ne peut être achetée de la Suisse, parce qu'aujourd'hui les LBD 40 sont achetés en Suisse, qu'avec l'autorisation, si je ne me trompe pas, c'est le ministère de la Défense, mais en tout cas c'est traité comme arme de guerre. La classification de cette arme, c'est une arme de guerre. Donc aujourd'hui, le maintien de l'ordre en France se fait avec des armes qui sont considérées comme des armes de guerre. Face à des manifestants qui ont éventuellement des cailloux, voire des canettes, voire des œufs. Parfois, certains ont éventuellement des choses un peu plus contondantes, on va dire. Mais ça reste une minorité de personnes vis-à-vis de la majorité des manifestants de Gilets jaunes. Et la plupart des blessés sont des manifestants pacifistes, on va le rappeler encore une fois. Du coup, la politique que Monsieur Lallemand a mis en place, que le préfet Didier Lallemand a mis en place à Bordeaux, c'est encore une fois une augmentation des tensions, une augmentation des violences, plutôt que de faire de la désescalade de la violence, ce qui a créé énormément de blessés très graves auprès des Gilets jaunes. Et a priori, le gouvernement l'a remercié parce qu'il a été muté à Paris. Donc la conclusion du rapport...
Merci au sens positif, c'est d'habitude.
A priori, oui. La conclusion de ce rapport, c'est un peu tirer la sonnette d'alarme en disant à l'État, mais que faites-vous face à des personnes qui vont manifester de façon légitime des revendications sociales et politiques, vous leur mettez en face que de la violence policière. C'est pas digne d'un État dit démocratique. Et c'est un danger pour les libertés publiques.
Exactement. Ah, je n'ai pas cette autre partie, tu veux dire.
Oui, ce qu'a conclu l'Observatoire, c'était que l'objectif, c'était de dissuader d'exercer cette liberté, de manifester ça. En gros, quelles sont les principales conclusions que vous avez tirées de ce rapport?
Alors, il y a aussi dans le rapport tout un volet sur les traumatismes subis par les blessés, mais on peut aussi subir des traumatismes si on est témoin de violences policières, donc ce n'est pas non plus à négliger. Et il y a toute une partie sur le traitement judiciaire, en fait, des gardes à vue. On travaille aussi avec certains avocats et avocates du SAF, du syndicat des avocats de France, qui assurent une permanence pour aider les gilets jaunes face à la justice. Et on se rend compte que la justice est beaucoup plus sévère qu'en temps normal pour, encore une fois, dissuader les gilets jaunes et donc ces manifestants et ces manifestantes d'avoir le droit et d'avoir cette liberté fondamentale de manifester, de revendiquer des nouveaux droits, en tout cas dans l'espace public.
Il y a donc deux aspects, là. Un petit peu l'aspect politique, on va dire, c'est... ce que vous dites, c'est que cette liberté, elle ne peut pas s'exercer. En une démocratie, ce n'est pas simplement le droit de vote, c'est une certaine liberté d'expression. Et donc là, elle est contenue. Et l'autre élément, c'est au niveau individuel. Est-ce qu'il y a des préventions? Est-ce que vous avez des préventions, des choses comme ça qui peuvent être apportées ou pas? Et puis, troisième question. On verra après si les suites un petit peu de ce que l'Observatoire, là, le rapport, il s'arrête au 16 février. Est-ce que vous avez envisagé une suite à ce travail? Tu choisis la question.
Sur les conseils de prévention lorsqu'on va en manifestation, surtout aujourd'hui, je vous invite à vous rapprocher du CLAP 33 qui ont un site web qui explique bien les façons de partir en manifestation, s'assurer d'avoir un numéro de téléphone d'un avocat. S'assurer qu'on ait un numéro d'avocat, savoir qu'il y a des fouilles, depuis la nouvelle loi, dit loi anti-casseur, il y a des fouilles de voitures et de sacs aux abords des manifestations, beaucoup plus nombreuses du coup depuis 2 semaines. Ils vont essayer de vous confisquer tout ce qui est matériel de protection individuelle, c'est-à-dire sérum physiologique pour les gaz lacrymogènes, masque ou lunettes de plongée pour se protéger des gaz lacrymogènes, voire masque de respiration, voire casque éventuellement pour se protéger des tirs de LBD-40 ou des tirs de grenades en cloche, alors que sur certaines grenades c'est complètement interdit. Donc ces matériels, la police vous les confisque, mais de façon complètement autoritaire et illégale. Soit on a des choses à se reprocher, on part en garde à vue. La police n'a pas à nous confisquer des choses, a priori, que ce soit dans notre voiture ou dans nos sacs. Donc faire attention à tous ces contrôles et à ce qu'on a dans nos sacs, du coup. Et toujours rester en groupe dans les manifestations et surtout lorsqu'on quitte les manifestations, ne pas partir seul, partir en groupe. Parce que ça arrive aussi ces dernières semaines que les polices... contrôlent les gilets jaunes à la fin des manifestations, lorsqu'ils s'en vont dans les rues adjacentes. Ils se font contrôler, ils prennent des amendes de 135 euros pour participation à une manifestation interdite. Le rapport de l'Observatoire, effectivement, finit au 16 février. Il n'est pas fait pour être figé. Nous allons continuer à récupérer des témoignages en travaillant avec le CLAP 33 et le collectif anti-répression. On vous invite à vous rapprocher des différents sites web des organisations où vous aurez les contacts pour déposer des témoignages. Et nous allons régulièrement sortir des add-ons, des compléments au rapport, tant que la police, aux ordres des préfets et de l'État, ne respecteront pas les libertés publiques et le droit de chaque citoyen à exprimer ses avis dans l'espace public.
Vous allez suivre aussi les jugements et les condamnations de gilets jaunes, ou c'est prévu ça ou pas encore?
Comme on travaille avec des avocats, c'est eux qui nous ramènent les témoignages de comment ça se passe au niveau de la justice. Mais effectivement, si on pouvait faire un bilan des condamnations qui sont spécifiquement sur les gilets jaunes, on le fera. Et ça nous permettra de montrer aussi que la justice peut être à des ordres politiques, pas si indépendante que ça. Même si, d'après les avocats du SAF, en Gironde, on a une justice qui reste encore moins répressive que dans d'autres territoires français. Mais en sachant que, plutôt que les manifestants, plutôt que d'être relaxés quand il n'y a rien dans le dossier, aujourd'hui, ils se prennent du sursis. Voilà. Donc c'est encore une façon de dissuader les gilets jaunes de continuer à manifester.
Bon, là, j'ai une question, je ne sais pas si on va la garder. Parce que j'ai vu que l'amende de 125 euros, elle était donnée sur une manifestation déclarée non autorisée. Et que c'était une amende moins importante pour une non déclarée non autorisée. Est-ce que ça, non, t'as pas entendu parler que c'était, je sais plus, une participation à une manifestation non déclarée, c'était, je sais plus, 35 euros, et une manifestation déclarée non autorisée, c'était 135 euros.
Ah, ouais, non. Non, bon, non, tout est passé à 135.
Tout est à 135 euros.
Ouais.
Il n'y a pas de détails.
Non, il n'y a pas de détails. En fait, c'est... en France... ce qui est un peu ambigu par rapport à la déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, hein, où chaque personne a le droit de manifester ses opinions de façon publique, donc dans la rue. La manifestation est soumise à déclaration préalable en France.
Après c'est un droit individuel.
Comme disait un collègue de la Ligue des droits de l'homme, à la base, c'était pour... cette déclaration était pour faciliter l'organisation de la manifestation en discussion entre les organisateurs, les organisatrices et la préfecture. Cela a évolué en « nous voulons des responsables en cas de problème avec la manifestation pour les poursuivre en justice ». Donc effectivement, moi ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, vu cette répression judiciaire sur les manifestations, et qu'on a vu augmenter de plus en plus depuis 1995 avec les grandes manifs des routiers, et toutes les contestations sociales, syndicales, se sont pris petit à petit des répressions de plus en plus grandes. Je voudrais spécifier qu'il ne faut pas oublier que dans les quartiers populaires, la majorité des personnes qui y vivent, ce sont des personnes, on va dire, issues des ex-colonies françaises, c'est-à-dire d'origine arabe ou noire, subissent ce type de répression policière depuis une trentaine d'années. Donc c'est une politique générale de maintien de l'ordre française qui a été testée dans les quartiers populaires, les plus populaires, et qui aujourd'hui touche d'autres classes de la population qui se met à se révolter contre les mesures d'un gouvernement libéral et capitaliste. On peut utiliser ces mots-là, où l'on voit que ces mesures capitalistes et libérales cassent nos solidarités, tous nos services publics, les hôpitaux, l'école, la poste, les services publics en général, pression sur les salaires, et à un moment ça ne peut plus durer, donc effectivement il y a des manifestations, des revendications politiques claires sur plus de justice fiscale, justice sociale, démocratie directe. Si le gouvernement n'entend pas, on peut partir sur de la révolte qui va durer longtemps.
Après, c'est tout un autre débat, mais est-ce qu'un des aspects, c'est un des constats en tout cas de l'aspect médiatique de la répression, c'est qu'on est passé un petit peu des revendications de ce mouvement à violence, répression, victime, et que la question de... ce que tu as porté de justice sociale, plus de démocratie, etc., s'efface au profit justement de ces aspects-là, de l'aspect policier de la question et plus de la question. En tout cas, le traitement médiatique aussi, là-dessus, il a cet aspect-là. Même s'il y a toujours ces messages de revendication, cette fonction-là policière, elle n'est pas d'écarter justement le message revendicatif?
À partir du moment où l'État qui détient le pouvoir actuellement en France ne veut pas accéder aux revendications portées par les manifestants et les manifestantes, il va essayer de décrédibiliser ce mouvement et de le... Donc il y a eu des accusations d'antisémitisme, il y a eu des accusations que c'était uniquement l'extrême droite, il y a eu des accusations qu'ils étaient tous des casseurs et tous des black blocs et tous des ultra-violents. Bon, l'avantage d'aujourd'hui avec l'Internet et tous les médias sociaux, ça permet à beaucoup de monde de filmer et de se rendre compte réellement de ce qui se passe. Ou non, la plupart des manifestants sont des gens non-violents et pacifistes et ils se prennent une répression policière, donc aux ordres de l'État, de façon très violente et disproportionnée. Et c'est ce que l'on pointe du doigt dans le rapport. Donc ça permet de décrédibiliser le mouvement et de dissuader les manifestants de continuer à manifester. On voit que ça ne s'arrête pas, ça continue. Ça veut dire que les revendications sont d'une légitimité très forte et les gens ne s'arrêteront pas, sauf à être tous en prison, éventuellement, à revendiquer ces droits qu'on pourrait dire fondamentaux, en fait.
Donc, il faut continuer.
D'un point de vue personnel, d'un point de vue de l'observatoire, moi, je suis juste observateur. Donc, je n'ai pas d'avis à porter sur la continuer ou pas de la manifestation. D'un point de vue personnel, quand je vous croise dans la rue, on en parlera.
Il faut continuer à observer, en tout cas.
En tout cas, je pense que je vais observer pendant longtemps. J'espère que j'observerai encore pendant longtemps.
Bon, merci.